Chapitre 5. La marquise était logée dans une espèce d'auberge, triste réduit, qu'avait indiqué à son fils les pêcheurs qui les avaient amenés de Hollande, croyant passer des paysans frisons dont tous les deux portaient le costume. Je fus obligé de faire monter dans ma voiture la femme qui m'avait apporté la lettre, car mon cocher ne savait pas où était la rue en question. J'envoyai cette femme demander si je pouvais entrer chez la marquise, et l'instant d'après, je vis arriver Clément, dont la taille élégante se cachait sous des habits d'étoffe grossière qui juraient de la façon la plus curieuse avec ses traits fins et distingués. Je voulus prendre sa main et la serrer, mais il s'inclina et mit un baiser sur la mienne. « Puis-je entrer, madame ? » demandai-je en regardant sa pauvre mère qui gisait dans l'ombre sur un grabat, la tête soutenue par des oreillers crasseux et qui tournait vers la porte un regard tout effaré. « Clément ! » s'écria-t-elle avec effroi. Elle s'imaginait toujours qu'on voulait lui prendre son fils pour l'emmener en prison. Je finis cependant par entrer dans la chambre et par causer avec le jeune homme sans effrayer la mère. Lorsque j'eus appris le nom du médecin qui soignait la marquise, je remontai en voiture, après avoir dit à Clément que je reviendrais avant peu, et je me fis conduire chez le docteur. Je ne voulais qu'une chose, savoir si la malade pouvait être transportée chez moi et quel était le meilleur moyen que nous puissions employer. Ce médecin était, je crois, fort habile, mais il avait cette brusquerie, pour ne pas dire cette grossièreté, que l'on prend au contact des classes inférieures. Je lui dis tout l'intérêt que je portais à la malade, et l'intention où j'étais de la faire conduire chez moi. « C'est impossible, » dit-il, « le transport l'a tuerait. » « Cela sera pourtant, » répondis-je, « et il ne faut pas qu'elle meure. » « Dans ce cas-là, je n'ai plus rien à dire, » riposta mon bourru, qui fit mine de s'éloigner de ma voiture. Mais je connaissais l'argument qui devait le trouver sans réplique, et il fut convenu que la marquise soigneusement enveloppée serait transportée chez moi dans une litière, à une heure assez avancée de la nuit, pour ne rencontrer personne dans les rues. Nous avions tout préparé pour la recevoir, et bien que chaussés de pantoufles, nous descendions sans cesse dans la cour, tandis que le concierge était de planton à la porte, j'aperçus enfin, au milieu des ténèbres, les lanternes portées par les hommes qui dirigeaient le convoi. La litière ressemblait à un cercueil, et j'eus bien de la peine à retenir mes larmes. D'un côté marchait le docteur, de l'autre était Clément. Ils arrivèrent, et n'osant pas la fatiguer davantage, nous couchâmes cette pauvre marquise avec les grossiers vêtements de nuit que le brave homme de l'auberge lui avait prêtés. On la couvrit chaudement, et nous la laissâmes dans la chambre avec le docteur, une garde et Clément, qui avait son lit dans le cabinet de toilette. Brave et digne jeune homme, que de gratitude ne m'exprimait-il pas ? N'osant rien dire de peur de troubler la malade, il s'était agenouillé devant moi et m'embrassait les mains qu'il arrosait de ses larmes. Je lui permis de donner cours à cette muette expansion qui soulageait son cœur, et je rentrai dans ma chambre où je racontai à Milord tout ce qui avait été fait. Jusque-là, tout allait bien, mais ni moi ni mon mari, nous ne pûmes dormir, tant nous étions inquiets du réveil de la marquise. Et ce fut avec une joie bien vive que j'appris le lendemain matin que Madame de Courcy était beaucoup plus tranquille qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Il est certain que la chambre où elle se trouvait alors devait lui laisser une impression bien différente que celle que lui causait le misérable taudis où je l'avais vu la veille. Elle devait instinctivement se sentir chez des amis. Bref, la santé de la marquise s'améliora si rapidement qu'au bout de quelques jours, nous pûmes supposer qu'elle nous faisait une visite avec son fils, et oublier, en voyant celui-ci vêtu de nouveau comme devait l'être un gentilhomme, qu'ils avaient été contraints de s'enfuir de leur pays. Les choses continuèrent de la sorte pendant plusieurs semaines. Nos amis étaient reçus partout avec faveur. Clément avait été présenté à la cour, accueilli de la manière la plus gracieuse par leur majesté, qui un soir lui avait même adressé la parole. Et sa charmante figure, l'élégance de ses manières, jointes à plusieurs circonstances qui avaient accompagné sa fuite, en avait fait un véritable héros de roman. Il n'est pas de maison distinguée où il n'eût été reçu dans l'intimité, s'il en avait éprouvé le désir. Mais il n'allait dans le monde qu'avec indifférence, et je crois que, plus il montrait de langueur et d'ennui, plus on lui témoignait d'empressement. Monkshaven, c'est ainsi qu'on appelait mon fils aîné, essayait en vain de le distraire et de le faire participer au plaisir de son âge. rien ne diminuait sa tristesse. Un jour, on vint me dire qu'un vieil immigré, d'une humble condition, s'était présenté à mes domestiques, dont plusieurs parlaient français. Meldilcott m'apprit qu'il appartenait à la maison de Courcy. C'était, je crois, le régisseur d'un grand domaine, qui, à vrai dire, n'était qu'un terrain de chasse et n'ajoutait pas beaucoup aux revenus de la famille. Toujours est-il que ce brave homme avait apporté en Angleterre les parchemins et la copie des actes relatifs à ce domaine et qu'il venait trouver M. de Courcy pour lui remettre ses papiers. Clément était sorti avec mon fils. Quand il rentra, je lui appris l'arrivée du vieux régisseur qu'il alla trouver aussitôt. Il resta fort longtemps avec cet homme. Nous devions aller ensemble faire une course en voiture, et fatigué de l'attendre, j'allais sonner pour lui rappeler son engagement. Lorsqu'il rentra chez moi, la figure aussi blanche que la poudre qui lui couvrait les cheveux. « Qu'avez-vous ? » lui demandai-je. Il me serra les mains et me regarda sans pouvoir articuler un seul mot. « Ils ont pendu mon oncle, » dit-il, après un instant de silence. Je savais qu'il existait un comte de Courcy, mais c'était un vaurien qui déshonorait la famille, et l'on m'avait toujours fait entendre qu'il n'avait aucun rapport avec la branche aînée. Je fus donc un peu surprise de cet excès d'émotion, jusqu'au moment où je vis dans les yeux du jeune homme ce regard particulier qui révèle une terreur plus profonde qu'on n'ose le dire. Il avait besoin d'être entendu sans parole, mais j'ignorais qu'il existât une demoiselle de Courcy. « Virginie, » murmura-t-il. Je compris tout, et me rappelai que si Urian vivait encore, lui aussi pourrait être amoureux. « La fille de votre oncle ? » lui demandai-je. « Oui, c'est ma cousine. » Je n'avais pas dit « votre fiancée », mais j'en étais sûr, et pourtant je me trompais. « Oh, madame, » poursuivit-il, « sa mère est morte, il y a longtemps, elle n'a plus de père, et la voilà seule, abandonnée à tous les périls qui la menacent. Est-elle en prison ? Non, elle est chez la veuve de l'ancien concierge de son père. » Mais un jour ou l'autre, on fouillera la maison, et ce sera la mort non seulement de Virginie, mais de la femme qui l'a cachée. Cette dernière ne l'ignore pas, elle tremble sans cesse. Il n'en faut pas davantage pour la trahir, quand même elle serait assez honnête pour rester fidèle à sa maîtresse. Et comment Virginie pourrait-elle fuir à présent qu'elle est seule ? Je devinais la lutte qui s'engageait dans son cœur. Il voulait courir auprès de celle qu'il aimait et ne l'osait pas à cause de sa mère. Je n'aurais point empêché mon fils d'accomplir un pareil devoir, et je ne songeais pas à retenir le pauvre Clément. J'ai peut-être eu tort de ne pas lui montrer le danger auquel il s'exposait, mais le péril était encore plus imminent pour elle. À cette époque de la terreur, on n'épargnait personne, et la jeunesse ou les cheveux blancs ne préservaient pas les femmes du couteau de la guillotine. J'entrais donc dans les vues de ce pauvre jeune homme. Je lui recommandais seulement d'agir avec toute la prudence nécessaire pour arriver à son but, ne doutant pas, comme je le disais tout à l'heure, que sa cousine ne fût sa fiancée. Mais lorsque j'allais trouver la marquise, après que son fils lui eut parlé de son désir, je découvris mon erreur. Madame de Courcy, trop faible en général pour marcher même avec un bâton, parcourait sa chambre d'un pas rapide, bien que tremblant, et se tordait les mains en se parlant à elle-même. Elle s'arrêta dès qu'elle m'aperçut et m'adressant la parole avec feu. « Madame, me dit-elle, vous avez perdu votre fils, mais il fallait laisser le mien. » Je ne sus d'abord que répondre, tellement j'étais surprise. J'avais parlé à Clément comme si la démarche qu'il voulait tenter avait déjà eu l'approbation de sa mère. En pareil cas, si Urian m'avait demandé la mienne, je n'aurais pas pu la lui refuser. Mon cœur a toujours bondi à la pensée du péril que l'on me raconte, et ne pouvant y courir moi-même, je n'ai pas de repos que je ne sache qu'on a été au secours des malheureux dont on parle. C'est peut-être parce que ma vie a toujours été paisible que le danger m'impressionne aussi vivement, et que je m'imagine qu'on va pouvoir le conjurer. Mais cette pauvre marquise ne pensait pas comme moi, et ne partageait ni mon espoir, ni la confiance de son fils. « Il nous reviendra sain et sauf, lui dis-je. On prendra toutes les précautions possibles, on fera pour lui tout ce que vous pourrez imaginer, tout ce que Milord ou Monkshaven croiront utile de faire. Mais il ne peut pas abandonner une jeune fille qui, après vous, est sa plus proche parente, sa fiancée, chère madame. »« Sa fiancée ? » reprit-elle avec indignation. « Virginie, la fiancée de Clément. Certes non, grâce à Dieu. Il fut une époque où la chose aurait pu être. Mais mademoiselle a méprisé mon fils. Elle n'a voulu avoir aucun rapport avec lui, qu'à son tour, il n'ait rien de commun avec elle. » Le pauvre Clément venait d'entrer dans la chambre et avait entendu ces paroles. Il s'approcha de la marquise et tous les deux se regardèrent en silence. Le visage altier de Madame de Courcy demeurait impassible, et malgré leur douceur, les yeux de Clément exprimaient une résolution inébranlable. Après avoir conservé cette attitude pendant quelques secondes, le noble enfant mit un genou en terre, prit la main osseuse de la marquise, main roide et glacée, qui ne se ferma pas sur la sienne, et d'une voix respectueuse et douce. « Ma mère, lui dit-il, veuillez me laisser partir. »« Qu'a-t-elle répondu ? M'écriai-je. » « La marquise, reprit Milady avec lenteur, comme pour obliger sa mémoire à lui rendre les paroles que je lui demandais. La marquise laissa tomber ces mots d'une voix glaciale. « Mon cousin, lorsque je me marierai, j'épouserai un homme, et non pas un petit maître, un homme qui honorera l'humanité par ses vertus, quel que soit le rang qu'il occupe dans le monde, et qui ne se contentera pas de vivre dans une cour efféminée d'après les traditions d'une grandeur éteinte. « Comme vous voyez, ajouta la marquise en s'adressant à moi, elle empruntait le langage de M. Rousseau, l'ami de son père, non moins infâme que l'écrivain dont elle avait les principes, et voilà la personne que mon fils demandait en mariage. « J'accomplissais la volonté de mon père, objecta Clément. Dites que vous l'aimiez, et que c'est pour combattre l'opposition que je faisais à cette alliance que vous avez évoqué ce simple désir de votre père, exprimé il y a 12 ans, répondit la marquise. Je ne voulais pas de cette union. Vous avez malgré cela sollicité la main de votre cousine. Elle vous a refusé avec insolence, et vous me quitteriez pour elle, vous me laisseriez seule, en pays étranger. Seule, ma mère, la comtesse Ludlow, n'est-elle pas auprès de vous ? Pardon, madame, reprit la marquise. Mais la terre fut-elle remplie d'êtres bienveillants et dévoués, qu'elle n'en serait pas moins déserte pour la femme qui est éloignée de son fils, et le mien m'abandonnerait pour cette fille athée, dont l'âme s'est corrompue aux doctrines des encyclopédistes. Le danger qu'elle court aujourd'hui n'est que le résultat de ses principes. Laissez-la recueillir les fruits qu'elle a cultivés. Sans doute, elle a des amis, peut-être même des amants, parmi ces démons qui, au nom de la liberté, se permettent des plus atroces licences. Elle vous a méprisé, Clément. Ayez assez de fierté pour ne pas vous occuper d'elle. Ce n'est pas à cela que je pense, ma mère. C'est au danger qu'elle court. Songez plutôt à moi qui vous défend de partir. » Clément fit un profond salut et sortit de la chambre, comme s'il eût été frappé de cécité. La marquise lui vit étendre les mains en chancelant pour chercher où était la porte, et je crus qu'elle allait être ébranlée. Mais elle se retourna vers moi et m'expliqua les motifs qui l'empêchaient de consentir à la démarche de son fils. Le comte, frère cadet de son mari, avait, disait-elle, usé de son influence pour troubler leur ménage, et c'était à force d'intrigues qu'il avait imposé au marquis cette clause relative au mariage des deux cousins. Le comte de Courcy, chargé de la tutelle de son neveu, avait en outre blessé la marquise par une foule de procédés, et je me rappelais qu'à l'époque où nous avions loué l'hôtel de la rue de Lille, Milord avait cru voir que cet arrangement, conclu entre lui et le comte, déplaisait à la marquise. Jamais celle-ci ne mettait les pieds chez son beau-frère, mais il était impossible qu'elle empêchât son fils de voir le comte, et c'est lorsqu'il fut trop tard qu'elle soupçonna l'amour de Clément pour sa cousine. Elle prit alors des renseignements sur la jeune personne. On lui répondit qu'elle était d'une beauté médiocre, mais qu'elle avait une taille élégante, la physionomie expressive et les manières à la fois pleines de noblesse et de charme. Quant au caractère, c'était suivant les uns une fille effrontée, sans principe et sans cœur, suivant les autres une nature indépendante et généreuse, un esprit original. Son père, qui la guettait beaucoup, lui avait fait donner en quelque sorte l'éducation d'un homme et lui avait permis de choisir, pour son ami intime, une jeune personne d'une condition inférieure à la sienne, une demoiselle Necker, appartenant à la bureaucratie et qui était fille du ministre des Finances. Il en résulta que Mademoiselle de Courcy se trouva lancée parmi des libres penseurs, des gens dont l'imagination est remplie de projets subversifs, de toute morale, et qui ne songent qu'à renverser la société. « Et mon fils recherche de pareils gens ?» avait demandé la marquise. « Non, lui avait-on répondu. Monsieur de Courcy n'a d'yeux et d'oreilles que pour sa cousine, et ne pense qu'à la regarder et à l'entendre. Quant à Mademoiselle Virginie, c'est à peine si elle s'apercevait d'un amour qui était évident pour tout le monde, la fière créature. Mais ce pouvait être un moyen de cacher ce qu'elle éprouvait, et la marquise poursuivit son enquête sans rien apprendre de décisif. Lorsqu'un jour elle surprit, entre les mains de son fils, le billet où Mademoiselle de Courcy répondait à la demande de son cousin, qu'elle épouserait un homme et non pas un petit maître. » Justement indigné des termes de cette réponse, Clément avait promis à sa mère de ne jamais se représenter dans la maison de son oncle. Mais il ne put oublier sa cousine, bien qu'il ne proférât plus son nom. La marquise et son fils avaient dû fuir dès les premiers jours de la Révolution, car ils étaient classés parmi les plus grands aristocrates. Un abominable terme qu'employaient ces affreux sans-culottes pour désigner les gens qui tenaient à honneur de conserver les principes où ils s'enorgueillissaient d'avoir été élevés. Clément avait quitté la France, avec la certitude que non seulement le comte n'avait rien à craindre, mais qu'il était même en faveur auprès de la coterie qui tenait alors le pouvoir. Il fut donc rassuré à l'égard de sa cousine, jusqu'au jour où il apprit que son oncle, en dépit de ses opinions progressives, avait été guillotiné par cette canaille dont il s'était plu à revendiquer les droits. Lorsque la marquise m'eut raconté cette histoire, j'avoue, poursuivit Lady Ludlow, que je reportais sur la mère une partie de l'intérêt que le fils m'avait inspiré tout d'abord. Cette cousine ne me paraissait pas mériter qu'on s'exposât pour elle. Mais quand je vis Clément désespéré, allant et venant comme un homme qu'un songe affreux obsède, quand je vis qu'il ne pouvait plus manger, qu'il n'avait plus de sommeil, et qu'il supportait sa douleur en silence, pauvre ami, essayant même un pâle sourire quand ses yeux rencontraient les miens, je me demandais comment la marquise pouvait résister à cette muette supplication. Lord Ludlow et Monkshaven s'indignaient qu'une mère pût empêcher son fils de courir un danger honorable, d'accomplir un devoir impérieux, celui de sauver une orpheline dont on est le seul appui. Il n'y a qu'un Français, disait Milord, qui puisse se trouver lié en pareille circonstance par les terreurs et les caprices d'une vieille femme. Qui gagnera la marquise lorsque ce pauvre Clément sera mort de chagrin sous la contrainte qu'elle lui impose? La démarche est périlleuse, il faut en convenir. Mais je parie tout ce que l'on voudra qu'il échappe à la guillotine, sauve la jeune fille, la ramène ici, folle d'amour pour son protecteur, et qu'avant 2 mois, nous avons un mariage à Monkshaven. Milord répéta ces paroles tant et si bien qu'il finit par croire à l'infaillibilité de sa prédiction, et qu'un jour, ayant vu Clément plus pâle et plus désespéré que jamais, il fit demander à Madame de Courcy de bien vouloir lui accorder un instant d'entretien. Par ma foi, s'écria-t-il, je veux qu'elle sache mon opinion. Il ne sera pas dit que je verrai tranquillement son fils dépérir sous mes yeux. C'est bien un trop brave et digne jeune homme. Ah, qu'un Anglais serait parti depuis longtemps sans en demander la permission. Mais en sa qualité de Français, le pauvre Clément est un véritable aîné, avec toutes ses bagatelles filiales. Je vous dirai que Milord s'était jadis engagé dans la marine contre la volonté de son père, et que la chose ayant bien tourné, par bonheur, il n'avait jamais eu la conscience de la faute qu'il avait faite. Mais si, par exemple, à son retour, il eût appris la mort de ses parents... Je voulais dire que Milord s'était jadis engagé dans la marine contre la volonté de son père, et que la chose ayant bien tourné par bonheur, il n'avait jamais eu la conscience de la faute qu'il avait faite, comme si, par exemple, à son retour, il eût appris la mort de ses parents. Je voulais assister à la conférence, mais il n'y eut pas moyen. « Une femme peut triompher de l'obstination d'un homme, » me répondit Milord, « mais c'est le contraire qui a lieu quand il s'agit de faire céder une personne de votre sexe. Permettez-moi, je vous prie, d'être seul avec la marquise. » Jamais il ne me raconta ce qui s'était passé dans cette entrevue, mais il en revint d'un air plus grave qu'il n'y était allé. Madame de Courcy néanmoins consentait au départ de son fils et autorisait Milord à en informer Clément. « C'est une vieille Cassandre, » me dit Lord Ludlow, quand il m'apprit le résultat de sa démarche. « Ne laissez pas Clément seul avec elle. Je suis persuadé qu'elle affaiblirait le courage de l'homme le plus intrépide. » Elle est tellement superstitieuse. J'ai su plus tard qu'elle avait ébranlé chez Milord cette corde du pressentiment qu'il tenait de son origine écossaise. Toutefois, mon mari ne s'arrêta pas à cette impression pénible et ne nous occupâmes avec tant d'activité du voyage de Clément que le soir même tout était prêt pour son départ. La marquise n'avait voulu voir personne depuis l'entretien orageux qu'elle avait eu avec Lord Ludlow. Elle nous avait fait dire qu'elle voulait se reposer, mais il fallait que son fils allât lui faire ses adieux, et pour empêcher que la séparation ne devînt trop émouvante, nous résolûmes d'assister, Milord et moi, à cette pénible entrevue. Clément portait comme habit de voyage le costume d'un paysan de Normandie, que nous avions fini par trouver chez un émigré qui s'en était servi lui-même pour quitter les côtes de France. Le jeune marquis devait prendre un bateau pêcheur qui le conduirait dans les environs de Dieppe, où il changerait de déguisement. Nous avions si bien comploté cette affaire. En voyant entrer son fils revêtu de ce costume de paysan, la marquise fut singulièrement troublée. Je suppose que nous l'avions réveillée du profond sommeil où elle tombait toutes les fois qu'elle était seule, et que c'est à cela qu'il faut attribuer l'air égaré dont fut accueilli ce pauvre Clément. « Partez, » lui dit sa mère, en le repoussant, comme il se mettait à genoux pour lui baiser la main. « Partez, Virginie vous appelle, mais vous ne savez pas quel genre de couche elle vous prépare. » « Dépêchez-vous, madame, » dit Lord Ludlow, en interrompant la marquise. « L'heure est plus avancée que je ne le pensais, et il ne faut pas manquer la marée. Dites adieu à votre mère, et partons immédiatement. » Milord et Monkshaven devaient le conduire jusqu'au rivage. L'instant d'après, j'étais seul avec madame de Courcy. Lorsque la voiture s'éloigna, le bruit des roues tira la pauvre mère de la torpeur où elle paraissait être plongée, et lui rendit la conscience du départ de son fils. « Il m'a quitté pour elle. » murmura la marquise, dont les mâchoires étaient serrées convulsivement. Et les yeux hagards, elle ajouta presque avec un air de triomphe : « Mais je lui ai refusé ma bénédiction. » »